je crois pouvoir dire historiquement ceci. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire.
Nous pouvons changer les conditions de la jeunesse et les conditions de la vie.
Montez l'oiseté !
Les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger.
Ashishokiro, poète armé de stylo, réserve de créativité, hangar, silo.
Rap, littérature, révolution.
Vous êtes bien à l'écoute du 102.2 de Radio Canu, la plus rebelle des radios, avec l'émission que vous retrouvez tous les lundis de 13 à 14, Montaigne Was the Thug, émission culturelle de rap, littérature et révolution. Alors, comme vous le savez, chers auditeurs, on s'est lancé cette année à Montaigne Was the Thug dans une suite d'entretiens avec les libraires lyonnais sur le thème, un peu vague, de politique dans la librairie et chez le libraire. Alors, on a fait une émission déjà avec Fabien de Terre des Livres. Et aujourd'hui, c'est Francis Chaput d'Hézerville qui sera là pour nous parler de sa librairie, Le Bal des Ardents. Bonjour Francis.
Bonjour.
Alors, également, pour vous accompagner dans cette émission, les chers chroniqueurs que sont Bertrand Fibien, spécialiste en batracien et littérature de tout type. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Et Eugenio Negro, le philosophe du futur qui connaît Schopenhauer mieux que ses propres parents. Salut Eugène.
Salut.
Alors, le Bal des Ardents, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la librairie incontournable de Lyon. Tout d'abord, de par sa situation géographique, donc le premier arrondissement, hein, situé entre l'Hétéro et Cordeliers, puis par son architecture aussi, ou du moins sa décoration et surtout cette arche faite de livres qui est un peu le symbole de la librairie. Et enfin, le Bal des Ardents, c'est un incontournable de Lyon parce que son fond est extrêmement fourni en philosophie, en sociologie, mais aussi en diverses autres choses comme la BD, le polar ou la littérature érotique. Alors Francis, la première question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui concerne l'histoire de ce lieu. Qu'y avait-il au 17 rue Neuve avant 2003, avant le Bal des Ardents ou avant votre reprise de cette librairie?
En fait, il y avait moi en tant que salarié d'une librairie qui s'appelle La Musardine, qui est c'est une librairie d'éditeurs, puisque, et donc c'est l'éditeur principal d'érotique en France.
Ah d'accord, d'où voilà, le fond érotique encore présent aujourd'hui.
Voilà, oui bien sûr, c'est dans l'histoire de la librairie. Donc j'ai ouvert cette librairie en 2000, mais sous l'enseigne Musardine et en tant que salarié.
D'accord.
Et au bout de 2 ans et demi, Claude Barre, le PDG de la Musardine, a souhaité arrêter l'expérience, on va dire, et moi j'ai racheté au débeauté, parce que j'étais en fait dans la place. C'est assez important, en fait, en fin de compte, pour la suite, c'est-à-dire que, un, je ne suis pas libraire de formation, et deux, il me manquait au bas mot 100 000 euros, c'est-à-dire que au départ, je pouvais me le permettre dans la mesure où la clientèle, et là évidemment essentiellement érotique, payait les factures de fonctionnement. Donc tant que je ne confondais pas le tiroir caisse et le bénéfice, je pouvais tenter l'aventure. Mais je n'ai pas eu d'emblée les moyens pour acheter le fonds qui existe aujourd'hui. Voilà.
Et peu à peu, vos rayons sont élargis.
En fait, dès le départ, j'ai choisi des niches. Plutôt que de faire un saupoudrage de littérature et de sciences humaines, qui étaient quand même les deux axes pour lesquels... j'ai une prédilection. J'ai préféré choisir des niches comme la critique sociale, le polar, la littérature asiatique, bien sûr l'érotique parce qu'il était là aussi, et la bande dessinée indépendante, et avec deux ou trois autres. Et par contre, d'être bon dans ces niches-là.
Donc voilà, le Bal des Ardents, ce que vous venez de dire, à la base, c'est une librairie donc de niche. Elle faisait déjà le même périmètre. Elle était plus petite, j'imagine.
Non, en fait, il n'y avait que la première pièce d'investi. la seconde pièce dont je faisais des expos, qui avaient commencé d'ailleurs avec la Musardine. Et la troisième pièce, je ne l'ai eue qu'en 2006. Voilà. Donc petit à petit, j'ai investi la seconde pièce pour faire de la librairie. Et on a fait petit à petit les expos dans la salle du fond, la salle des sciences humaines. Et puis maintenant, il n'y a plus de mur dispo pour faire d'expos. On a un petit projet là, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Et tout est rempli de livres.
Vous avez donc aussi, vous avez évoqué votre parcours. Vous avez dit à la base, vous n'êtes pas libraire. Mmh. Alors, comment vous êtes devenu libraire et quel est votre parcours alors? Alors,
mon parcours, c'est un parcours éclectique, tout à fait typique de ma génération. Donc, je ne pourrais pas vraiment le résumer, mais je veux dire, j'ai fait énormément de boulot qui ne demandait pas de diplôme particulier, surtout qu'en plus, quand j'ai commencé, ce n'était pas une époque où on vous demandait un bac pour faire du traitement de surface. Et donc, voilà, ça va. Donc, j'ai fait énormément de boulot alimentaire. Parce que j'organisais ma vie pour lire, en fait. Je suis libraire parce que je suis un lecteur monomaniaque. Ce qui n'est pas nécessairement une manière d'arriver libraire. Il y a eu aussi cette rencontre, en fait, avec Claude Barre. Hein. C'est tout, comme beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie, c'est des hasards, quoi, des rencontres, et puis ça s'enclenche comme ça, quoi.
Mais à la base, quand même, un vrai amour du livre. Alors, ouais. Est-ce qu'on peut dire que... Comment vous définirez un peu la ligne éditoriale du bal aujourd'hui? Alors, parce que c'est plus réduit simplement à l'érotique ou à la BD à...
Non, ça depuis longtemps. Bon, c'est assez drôle, d'ailleurs, cette notoriété autour d'un fonds qui, en fait, représente 2 à 3 % de tout ce que
aujourd'hui
de tout ce qu'on propose, même si j'ai toujours été fier de défendre le fonds érotique qui est génial et d'ailleurs c'est un fonds que j'ai découvert en tenant la Musardine. J'avais aucune prédilection ou connaissance en la matière, mais c'est quand même assez, voilà, c'est assez c'est curieux qu'on reste sur ce fonds là alors qu'il y a bien plus d'autres fonds en tout cas qui se détachent et qui font la singularité du bal des Ardents. Voilà, et sur mon parcours, donc voilà, j'ai fait beaucoup de boulot dans le manuel notamment, enfin en tout cas dans le travaux public, dans la restauration, dans la culture, type Rodiz, Régie Théâtre. Et puis, en fait, j'ai fait des études sur le tard à 30 ans. Enfin, j'ai commencé à 26 ans, par là. Et là, ça a enclenché en fait un autre mode de vie où j'ai décroché donc un poste de pion. Où c'est la première fois, là, j'avais des vacances payées. Et là, pour le coup, j'ai respecté le truc, en fait. C'est vraiment parce que j'ai fait pion que j'ai pu faire terminer mes études. Et à la suite de ça, j'ai un petit peu enseigné aussi. Voilà.
D'accord. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, je trouve, dans votre parcours, c'est que vous n'avez pas une idée, a priori, de je vais devenir libraire et j'ai une idée très forte de ce que doit être la culture, enfin, ce dont j'ai l'impression, et que finalement vous êtes arrivé. Voilà, là.
En fait, M. Tuck, je m'étais renseigné sur le métier de librairie et je rencontrais beaucoup de libraires. Le truc, c'est que le métier de libraire est un métier qui est absolument pas reconnu, financièrement parlant, et en gros, on gagne le SMIC. Moi, j'avais d'autres compétences ou d'autres plans, et. Peut-être que vous le savez, mais enfin, dans la culture, le tout, c'est de trouver une place, même si elle dure 2 mois ou 15 jours, mais ça paye très bien. Et moi, je préférais travailler 10 jours, gagner 2 SMIC, voire 3 SMIC, et puis,
faire autre chose. Je ne comprends pas quel type de métier permet de gagner 2-3 SMIC en 10 jours dans la culture.
Oh, là, je parlais plutôt du travaux public.
Ah, ouais. D'accord. Parce que je me suis dit, là, il nous révèle quelque chose.
Ah, cela dit, sur les plateaux ciné, ça paye bien. Hein.
C'est-à-dire en tant que réalisateur
Non, même si c'est vous qui poussez le chariot du travelling ou de la perche. Hein. Vous êtes, selon les tournages, vous êtes là de 5h du matin à minuit. Donc, au final, voilà, c'est des payes conséquentes, sauf que ça dure qu'un temps.
D'accord. Donc aujourd'hui, petite astuce, voilà, auditeur, travaillez dans le cinéma, quoi, si vous voulez faire de la culture et des sous en même temps. Mais j'imagine que voilà, et vous le dites bien, libraire, on fait pas fortune forcément en étant libraire.
Là, c'est clair. Mais...
Et donc c'est un engagement aujourd'hui de...
Ah ben pas qu'aujourd'hui. Hein, dès le départ, je savais que ça n'allait pas être simple. Donc forcément, quand en plus vous avez d'autres compétences pour gagner mieux votre vie, c'est forcément un choix de vie. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui travaillent avec moi aussi, elles sont toutes bac plus 4 ou plus 5, elles sont toutes capables de gagner nettement mieux leur vie. Donc c'est pour toutes, c'est un choix de vie pour nous tous. Ça, c'est clairement établi.
Monsieur, peut-être que Monsieur Yonegro voulait réagir.
Non, je me demandais simplement combien vous avez de salariés. J'avais repéré deux jeunes femmes.
Mais... Oui, il y en a trois, plus une apprentie qui termine le 30 juin.
D'accord.
Donc ça fait que vous travaillez à quatre régulièrement sur la librairie. Donc c'est quand même, oui, c'est assez... Voilà, c'est conséquent.
Mais oui, c'est peut-être moins intéressant pour les auditeurs, hein, mais bon, le prix du livre en France, il est le même partout.
Non, c'est très intéressant.
Ça, c'est une chose, il est fixé par l'éditeur, c'est pas le libraire qui le fixe, c'est pas ni de site ni Amazon, c'est l'éditeur, pour un livre français neuf. Ensuite, nous, les éditeurs passent par des grossistes, et les grossistes vous accordent une remise. Cette remise, il y a une moyenne entre 30 et 35% brute. Faut bien, parce que souvent les gens ils disent ah ben oui, mais alors le libraire met 35% de sa poche. Non, c'est une remise brute. Donc sur un bouquin à 10 euros, on a déjà payé 7 euros, et puis on a 3 ou 3,50 qui reviennent. Ensuite, vous défalquez toutes vos charges, et la moyenne nationale de la librairie en France, donc le bénéfice net, c'est 1,5%.
Par livre ?
Non. De votre chiffre, à l'année.
D'accord, ok.
C'est 1, voilà, ce qui reste. Donc, pourquoi mes confrères font essentiellement de la nouveauté ? Parce qu'ils sont... Et de toute façon, moi aussi, je suis contraint. Il faut faire quand même un minimum de masse, sinon vous ne trouvez pas l'équilibre pour payer tous les prestataires de services, sans compter évidemment vos employés, mais enfin tous les... Le transporteur, l'électricité, l'eau, j'en passe.
Justement, à ce propos, le livre qui s'appelle « Trop vite » et qui est sorti en 2016, ça vous dit quelque chose, monsieur ?
Non.
C'est le livre de Nabila. Donc qui est sorti cette année et qui marche plutôt pas mal.
Oui.
Parce qu'il y a des chiffres qui disent 40 000 ventes déjà depuis qu'elle a sorti, d'autres 20 000. Bon, plusieurs, on serait dans la dizaine de milliers de ventes.
Mais Nabila,
star de télé-réalité.
J'étais déjà en train de me dire, mais est-ce que c'est pas le truc à la fabrique qui vient de sortir ?
Non, mais là. Alors pourquoi je ne l'ai pas vu sur vos tables, par exemple,
Oui, alors bon, quand même, vous chargez la barque avec Nabila, il y a quand même d'autres trucs comme. Non, mais je dis ça, je veux dire qu'il y a plein de ventes du type Eric Emmanuel Schmitt ou Marc Lévy. Je n'en ai jamais lu, mais enfin, je pense que c'est un peu plus lisible que cette personne. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas la clientèle, en fait. Alors, il est d'accord qu'au départ, je n'ai pas fait ce métier et je ne fais pas tous ces efforts précisément dont on vient parler de choix de vie pour vendre des trucs que je trouve mauvais ou sans intérêt et qui en gros sont des coups marketing qui n'ont rien à voir ni avec la littérature ni avec même un plaisir de lire. C'est autre chose, on est dans un autre... C'est un produit marketing. Donc moi, c'est sûr que d'emblée, il n'y avait pas ça sur mes tables. Mais ce que je dis... c'est que si il y avait 10 personnes qui rentraient au Bal des Ardents et qui me demandaient le dernier Nabila, on le prendrait au moins, je ne dis pas qu'on le mettrait sur la table ou en vitrine, mais je veux dire, je ne refuserais pas la vente, c'est ça que je veux dire. Mais ça n'arrive pas, et c'est vrai pour Marc Lévy, c'est vrai pour la plupart des meilleures ventes sur Datalib.
On ne trouve pas Marc Lévy au Bal des Ardents ?
Non.
Ah bon ?
On ne m'en demande jamais.
D'accord.
Non, il n'y a pas Marc Lévy au Bal des Ardents, non.
Mais donc c'est un choix purement économique ou
non.
Finalement, est-ce que vous estimez que chacun a le droit de demander Marc Lévy et de lire Nabila et que
chacun a le droit de faire exactement ce qu'il entend, mon cher monsieur Teug. Moi, j'ai pas. Moi, en tant que lecteur, je savais où trouver mon miel. En tout cas, où on essayait de le trouver, et j'allais pas dans certaines librairies où j'étais où précisément j'allais trouver que le tout venant, on va dire, ou les... Encore une fois, les produits marketing qu'on balance, sur lesquels on peut... Ça ne veut pas dire qu'il y a pas, que tout est à jeter, mais pour moi, je veux dire, Houellebecq ou Angot bénéficient du même battage médiatique que Nabila, j'imagine. Hein, mais... Et donc, ça rentre en tout cas dans une logique d'occupation de terrain, de marketing, etc. Bon, ça, c'est pas... voilà, j'ai pas fait libraire pour défendre, on va dire.
Oui, mais est-ce que vous avez fait libraire pour lutter contre ça? Et voilà.
De manière collatérale.
Non, oui, c'est-à-dire que forcément... ouais, je vois ce que tu voulais dire. Mais en fait, la manière de lutter contre, c'est que le bal des ardents, même si ça a été très compliqué économiquement, et très dur, aujourd'hui, il dégage justement 4 salaires, sans aucune concession, et sans vendre...
Concession, vous voulez parler
de concession, quoi, ce type-là, par exemple. Après, ça s'est
concession, mais c'est parce qu'il n'y a pas le public, vous avez dit.
Oui, mais enfin, vous pouvez aussi, alors à ce moment-là, vous pouvez faire aussi de la papeterie, vous pouvez faire des trucs qui fonctionnent, si
d'accord.
Vous voulez. Vous pouvez quand même petit à petit construire une clientèle, tout ça. Moi, Harry Potter, les Harry Potter, quand ils sortaient, j'en vendais un, pour vous donner une idée, quoi. Après, j'ai absolument rien contre Harry Potter, ni d'ailleurs, en tant que tel, Nabila sera discuté, mais en tout cas, pas en tant que contre sa personne en tant que tel, mais bref, j'ai perdu le fil, mais oui, en collatéral, le fait que voilà, c'est voilà. Possible, parce que le problème, si vous voulez, c'est que tout le, comme sur n'importe quel autre produit, y compris d'ailleurs pour la radio, etc., tout ça est rentré dans un raisonnement de profit. En premier lieu, et on vous dit, de toute façon, le reste, ça ne peut pas marcher. Mais effectivement, il y a énormément d'opérateurs dans toute la chaîne, bon, en ce qui me concerne, dans la chaîne du livre, qui font que c'est plus difficile de faire quelque chose que vous trouvez de qualité, en tout cas, ne pas aller vers la facilité, c'est-à-dire de vendre que ce qui est bien chroniqué partout en même temps, et puis de passer à autre chose au bout de 3 semaines. Voilà, ce qu'on a fait, c'est bien plus difficile, clairement, et à tous les niveaux. En tout cas, qui est le premier, le nerf de la guerre économique. Le truc, c'est de tenir. Voilà, si on fait une fête dans une semaine, c'est parce que, d'abord, on peut se le permettre, c'est-à-dire qu'on a les moyens d'acheter du vin, de la bière, de payer l'hôtel pour des auteurs qu'on aime, et que ce truc, économiquement, il est viable. Mais sans concession, c'est quoi t'es là. Mmh. Et ça, dans ce sens-là, oui. Sinon, moi, j'ai pas fait libraire du tout pour mettre en cause l'économie de marché en tant que telle. Mais moi, j'ai fait libraire parce que c'est mon truc quand même. Voilà. Je suis bien entouré de bouquins et j'ai eu cette opportunité. Je me suis lancé.
Ok. Ben alors, c'est sur ces belles paroles qu'on va s'écouter la première pause musicale de l'émission. Oxmo Puccino, Toucher l'horizon.
Ça pèse, j'rappe les oiseaux stèse. Fais-toi plaisir, écoute ça avec ta dé. Ce matin, j'suis bien dans ma peau, j'ai la pêche, telle cette femme qui dame des parts de tarte par dizaines. Te dis pas frapper par un maléfice. Recommence ta vie à zéro quand je la redémarre à moins 10. J'suis né blasé sans insu, puis brassé, me suis retrouvé sans issue. J'suis entré en collision avec mes obstacles. Tourne le pire à la dérision, l'enfant spectacle. Me dois de tout tuer pour ceux qui n'ont pas le choix. Ma chanson va pas sauver le monde, tant pis pour cette fois. Si j'avais entendu les profs, je serais pas le type dont on étudie l'écriture. Laisse les rires faire mon truc, me suffit de ce but. Si j'arrive à mi-chemin, je ferai date. Comme ce tigre tué par un caniche, nain. Tu connaîtras jamais la fin de l'histoire en faisant demi-tour. À 2 minutes de la victoire, on peut viser, tomber ta femme et son vison. Mais qui peut se vanter d'avoir touché l'horizon? J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Les murs qui nous bloquent frison. Avance, laisse les claques sonner. Viens la vitesse de mon son frison. J'irai au moins plus loin que l'horizon. C'est bien mieux que le coup de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frison. Avance, laisse les claques sonner. Viens la vitesse de mon son frison. Je me sens encore ceux sur qui nul ne miserait. Autant de chapitres que de poils possède un bison.
J'enchaîne les brochettes de problèmes. Hubert qui t'esquive, crochet le revers de la médaille, c'est mon emblème. Tu déconnes avec tes tonnes de projets. Ils vont encore s'entasser avec ceux de l'année prochaine. Viens, j'ai fait le plein de patience. Y'a assez d'essence pour rouler jusqu'à l'horizon. Qui même me suivent amène les cuivres, les guitares, du pain et de l'huile d'olive. Le seul raccourci ma potion. Ne suis pas les panneaux, rien indique la bonne destination. Passion, laisse-moi kiffer ma passion. M'échapper car à chaque page, des marionnettes rêvent qu'on m'isole. Plus on est de fou, mieux on évite la camisole. Je te fais plein de fins de pas de ceux qui démissionnent le plan. Je trouve en bas à gauche, juste après de Rimisol. J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le pouce nez. Tous les murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les klaxonner. Viens la vitesse de mon son frison. J'irai au moins plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le pouce nez. Tous les murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les klaxonner. Viens la vitesse de mon son frison. J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le pouce nez. Tous les murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les klaxonner. Viens la vitesse de mon son frison. J'irai au moins plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le pouce nez. Tous les murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les klaxonner. Viens la vitesse de mon son frison.
Vous écoutez toujours Mountain Was the Thug sur le 102.2 de Radio Canu. Rap, littérature et révolution avec aujourd'hui Francis Chapu de Zerville, le libraire du Bal des Ardents, qui nous a parlé, voilà, de sa librairie, de quelques choix éditoriaux qu'il a fait, qu'il a pu faire par le passé, qu'il fait et qu'il continue à faire. Et de comment on fait marcher finalement la librairie aujourd'hui. Alors, moi j'ai envie de prendre un exemple qui prend un peu le contre-pied de ce qu'on a l'habitude de dire sur l'évolution de la librairie. Les deux dernières librairies qui ont fermé à Lyon, si j'ai bonne mémoire, ce sont Chapitre et Virgin. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça alors qu'on parle de, dans pratiquement tous les secteurs économiques, de regroupement, de, voilà, de concentration de l'activité économique de la part des grands groupes vers les grands groupes. Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui les deux libraires qui ferment, ce sont justement deux libraires issus de ces grands groupes.
C'est donc à moi la question.
Tout
là.
À fait.
Ah, ça sort un petit peu de mes compétences, parce que là, effectivement, alors,
ouais, mais on McDo, au niveau de
on peut dire que McDo est un restaurateur, etc. Mais bon, on voit les moyens qu'il y a derrière, et précisément, c'est parce que c'est des grandes structures, et qu'une grande structure, c'est en gros blanc ou noir. Enfin, je veux dire, ça, en tout cas pour Virgin, ça a été racheté entre-temps. Hein, Virgin, c'est plus le milliardaire, c'est tout ça, c'est plus... Et je crois que c'était Hachette, en tout cas, qui avait racheté, il me semble. Hein, en tout cas, sur Lyon, moi, je connais pas trop les détails des grands groupes. Ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est qu'il y a une masse salariale. De toute façon, alors, déjà, pour Virgin, il ne faisait pas que le bouquin. Hein. Déjà, donc là, c'est déjà encore un autre, je dirais, un autre problème. Mais en tout cas, il faut bien entendre, c'est que, si j'ai un peu abordé l'aspect économique avant, c'est que sur des marges aussi modestes en librairie, si vous commencez à faire un peu moins, quelle qu'en soit la raison, vous ne tenez pas au niveau de la masse salariale. Et donc, il y a un moment, ben, vous déposez le bilan. Bon, ce n'est pas le cas, je pense. Enfin, ce n'est pas le problème, en tout cas, en ce qui concerne d'un côté Virgin et l'autre côté pour Chapitre. Je veux bien dire deux mots sur Chapitre. D'abord, cet endroit-là, c'est le meilleur emplacement de toute la ville. Il n'y en a pas deux comme ça. Il n'y en a pas 50. À Lyon, il y en a un seul. C'est le meilleur pour un commerçant, hein, pour c'est le meilleur emplacement. C'est sur la place Bellecour, mais pas n'importe où. Un autre libraire, il y a d'autres librairies sur la place Bellecour. Ils n'ont pas cet emplacement-là, je peux vous le dire, et ça compte énormément. Là, c'est l'emplacement de rêve. Moi, je vous dis, vous faisiez un Gibert à cet endroit-là, ou du moins une librairie, pardon, on s'en fout un peu, hein, mais avec des bouquins dehors, en deux ans, elle est viable cette librairie. J'y mets ma main au feu. C'est pas D'accord. possible autrement. C'est pas possible autrement. Vous avez tout qui débarque là. Vous avez toutes les villes environnantes qui débarquent du métro à cet endroit-là. C'est pas possible autrement. Alors comment, justement, une chaîne pu reprendre une très belle librairie qui fonctionnait très bien, qui s'appelait Flammarion, et en deux ans la couler, deux ans ou trois ans, parce que c'était écrit. Pourquoi c'était écrit ? Parce que il y a eu un grand fantasme qui a énormément transformé, en tout cas pour un temps, toute la chaîne du livre. C'est le fantasme du numérique. D'ailleurs, d'ailleurs Chapitre avait fait une énorme vitrine avec une liseuse en vitrine. Donc, alors, je voudrais dire tout de suite, moi personnellement, je n'ai absolument rien contre le livre numérique ou les gens qui veulent lire sur des liseuses. Je dis simplement que c'est pas la même approche, c'est pas le même plaisir. Et bon, je referme la parenthèse et je dis en tout cas pour ce qui est pour ce qui est par contre de toute la chaîne du livre, et donc pensez bien aux grands groupes qui d'un seul coup il y a quelques années se sont dit ça va faire comme le CD, on va passer du bouquin à la liseuse. Non mais là attention, faut juste s'arrêter, se dire, les gars ils se disaient on va supprimer toute la chaîne. On va supprimer l'imprimeur, on va supprimer le gisement des stocks, c'est une des choses qui coûte le plus cher. On va supprimer le diffuseur, on va supprimer les représentants, on va supprimer le transporteur. Et là, tout ça, pactole. Ça va rentrer dans notre poche.
Pactole.
Je ne sais pas si vous voyez ce qui a pu se passer.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas pris?
Écoutez, j'en
pas pour le numérique, mais peut-être pour Chapitre, rien qu'au niveau de l'emplacement, vous nous avez dit.
Ah non, mais Chapitre, oui, ils ont des billes là-dedans. Ils ont des billes en numérique, ils ont des billes dans les... Bon, je n'ai pas exactement le détail, mais déjà, appeler une librairie papier chapitre.com, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ils annonçaient d'emblée la couleur. Ce que moi, je sais, je connais des libraires qui travaillaient chez Flammarion, qui ont travaillé chez Chapitre, c'est que le stock s'est divisé par 5. Donc, ils ne travaillaient que de la nouveauté et encore.
Et vendre des liseuses.
Donc, si le bal des ardents, il existe, c'est parce qu'il a du stock. Voilà, c'est pas moi, j'ai pas que le livre qui est sorti il y a un mois. Je suis qui est sorti il y a 10 ans, si j'estime qu'il est bon ou qu'il est important d'avoir. Après, moi, je suis pas dans les papiers de chapitre.com. Je dis seulement qu'il y avait des choses, même pas en tant que libraire, mais en tant qu'observateur, évidentes. Ils ont quand même collé une station Vélov devant la seconde entrée. Vous pouvez pas me dire. Vous ferez ça si vous avez envie que les gens rentrent chez vous? Non, ils ont tout fait pour que ce truc ferme. Et vous savez aussi que quand vous mettez en bilan, en liquidation, l'État reverse. Enfin bon, tout ça, c'est les grandes magouilles des grands groupes, quoi.
Mais est-ce que tout ça, c'est pas finalement peut-être une bonne nouvelle? Est-ce que si les grands groupes Fnac qui rachète Darty, donc ils veulent plus faire du livre, qu'est-ce qui se passe? Si les grands groupes ne misent plus sur le livre, c'est sans doute parce que il y a encore cette loi du prix unique du livre qui fait que on ne peut pas faire de gros bénéfices, c'est ça qui intéresse les grands groupes, de faire des gros bénéfices, de pouvoir reverser beaucoup de dividendes lorsqu'on fait du livre. Et est-ce que c'est pas ça qui va laisser de la place aux librairies indépendantes finalement? Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle?
Alors, je dirais, monsieur Teuc, qu'il n'y a pas d'abord que le libraire en cause là-dedans. Et que dans le monde dans lequel on est, enfin, c'est récente au niveau économique, il faut. Non seulement faire toujours plus, en fait. Et donc, il y a un moment, on sait bien qu'un bon bouquin, c'est incompressible. On commence là, on fantasme, enlever l'éditeur, comme si l'éditeur, il faisait juste qu'assoiffer un auteur. Mais non, c'est un vrai métier, c'est un crible. N'imaginez pas, même des auteurs connus à qui on renvoie leur tapisserie en lui disant, là, Coco, t'as merdé, ou tu te regardes trop le nombril, faut que tu me réides. Ou alors que dans la structure, ça passe pas. Enfin bon, c'est un vrai boulot. Il y a des gens qui bossent, il y a des correcteurs. Normalement, avant un poche, il y avait trois correcteur. Ouais. Donc plus vous supprimez les échelons de cette chaîne, et plus au final, le produit n'a plus rien à voir avec un vrai livre. Vous avez 150 coquilles, ce qui nuit à la lecture. Vous avez bon. Donc voilà, il n'y a pas que la librairie, en tout cas dans le problème que vous soulevez, monsieur Teuil, qui est en compte. C'est vraiment toute la chaîne du livre, de l'auteur et jusqu'au lecteur, d'ailleurs.
Voilà, comme on parle de numérisation donc, du livre, j'ai ces chiffres du syndicat national de l'édition. En 2013, le chiffre d'affaires total des e-books, c'est 44 millions d'euros, soit 1,1% du marché du livre en France. en France. Parce que aux États-Unis, au Royaume-Uni, il se passe pas tout à fait la même chose. Aux États-Unis, on est sur 27% et au Royaume-Uni, 15%. Donc c'est quand même beaucoup plus haut. Mais alors voilà, est-ce que c'est vous pensez, si j'ai bien compris, que si le e-book ou voilà, le livre numérique n'a pas pris en France, c'est peut-être parce qu'on n'est pas encore prêt à casser la chaîne du livre.
Non, alors je crois que tout le monde a été surpris, parce que moi, quand ça a commencé en 2000, hein, la première présentation Salon du Livre, moi je me souviens de ça en 2000, bien. Il y aurait plusieurs choses à dire, c'est pas hyper passionnant, hein, mais moi je veux bien vous répondre. D'abord, la première chose, en ce qui concerne les chiffres que vous venez de donner pour la France, il faut savoir que sur ce pourcentage assez maigre, 80% et plus de 80% des achats ont été faits par l'État. C'est les tablettes qu'on a imposées dans les
écoles,
bon, dans les programmes, etc. Ah, je ne juge pas, hein, là-dessus. Enfin, je veux dire, voilà, que c'est pas du consommateur direct. Moi, personnellement, je veux dire, il y a un moment, je dis, ben oui, peut-être effectivement, votre génération, vous préférez lire sur un iPad, sur une liseuse, sur votre téléphone, et que le rapport, car il y a évidemment, hein, il y a un objet livre évident. Indépendamment de son contenu, va se perdre. Moi, je me suis pas senti, si vous voulez, plus que ça menacé, dans la mesure où moi je sais que je suis un fou du papier et que, bon, ben, si ça peut pas marcher, on arrête. Donc, je commence à me faire vieux. Voilà, c'est dans un autre monde, j'ai rien à dire.
Donc, vous étiez finalement pas menacé, vous vous dites, je vais faire autre chose, mais.
Oui, non, mais je veux dire. Moi, oui, Francis, voilà.
Oui.
Mais
votre librairie, il était un peu.
En disant quand même, bon, il y a un moment, faut dire, voilà, c'est pas mon truc, mais ça empêche pas que ça peut être le truc de la majorité, en tout cas, et qu'il y ait une vraie demande. Je vous mets
au défi
de trouver un tel gaspillage de publicité et de promotion sur les liseuses, quelles qu'elles soient, hein, celles d'Amazon ou d'un autre, qui s'est passé en 10 ans pour d'aussi maigres résultats. Je crois pas qu'il y ait eu un produit marketing qui ait bénéficié, parce que attention, hein, c'était une page dans le Monde, le quatrième dans le Monde chaque semaine. Il y a eu des investissements énormes pour un résultat nul. Ce qui se passe, maintenant juste un petit mot, monsieur Tug, sur les Anglo-Saxons et les États-Unis, c'est que aux États-Unis, ça on trouve entre autres dans le livre de Schifrin sur la librairie en France. Par exemple, à New York, il y avait, il y a maintenant donc 8 ans, 240 librairies. Il n'en reste que 60, et ça, ce sont des chiffres d'il y a 2 ans au moins, et ces 60 appartiennent pratiquement toutes au même groupe. Mmh. Donc c'est ça aussi. Comment on impose un produit ? Il faut aussi supprimer l'offre sur la demande du produit concurrent. Ce qui n'est pas possible, effectivement, avec la loi Lang en France, où, c'est possible, mais enfin, c'est plus compliqué, on va dire, puisque, en tout cas, d'assoiffer, de détruire ou de le tissu des librairies, en faisant du discount, en faisant des trucs moins chers. S'il n'y avait pas une loi sur le livre, vous trouveriez un grand format à 20 euros à 2,50 euros chez Leclerc, c'est-à-dire qu'il vendrait à perte avec des... Bon, même s'il n'y a pas le droit, mais avec des montages X ou Y. Ouais. Et donc, le petit libraire ne pourrait pas tenir. Et une fois que le petit libraire n'existe plus, et ben on balancerait le prix qu'on veut. C'est ce que va faire Amazon. Puisque voilà, vous voulez qu'on parle d'Amazon, là aussi, hein, moi je parle pas.
Parce que c'est pas ça, c'est pas Amazon.
Mais non, c'est pas. Moi, là aussi, je le dis sincèrement, je n'ai rien contre leur e-commerce. Et puis d'ailleurs, je pense que ça peut être très pratique sur tout un tas de trucs. L'e-commerce.
Oui, contre l'e-commerce.
Là,
mais
je suis en train
Amazon.
De chercher des meubles. Moi, je trouve que le Bon Coin, ça fonctionne bien. Je rencontre des gens. Bon, bref. Donc j'ai rien. C'est pas ça.
Non, mais c'est une question de simplement le fait que Amazon vous pique votre marché, entre guillemets. Enfin,
oui, mais je veux dire la concurrence. La concurrence, c'est bien. Enfin, moi, je ne sais pas dans ce sens-là, en tout cas, que je critique Amazon. Je critique ces groupes parce que leur volonté dernière.
Mais la concurrence, elle est même pas. C'est même pas une.
Ce n'est pas de prendre le marché, c'est de faire ce qu'il veut avec le monopole. Ce que je combats et ce que je combattrai toujours, c'est le monopole, parce que le gars, et surtout évidemment en matière de produits culturels, parce que c'est des idées. Et que le jour où il n'y a plus qu'Amazon, mais vous aurez uniquement la pensée de Trump, et vous n'aurez pas la pensée des autres. S'il a touché suffisamment d'argent de Trump, par exemple. Évidemment, hein, je grossis le trait, mais c'est quand même ça. Si vous voulez, j'ai un exemple, mais qui met en compte des noms. Alors, je ne vais pas... Imaginons un groupe... Non, imaginons... Oui. Il y avait une librairie à Lyon de photo-cinéma. D'accord. Oui. Donc, c'est déjà, hein, il faut bien comprendre que quand vous faites de la photo et du cinéma, c'est des livres qui sont chers. Il faut quand même une trésorerie importante et trouver une clientèle. Bon. Arrive un grand groupe qui fait un rayon cinéma-photo. D'accord. Et bon, son rayon, il est bon. Attention. Bon, qu'est-ce que font les... En plus, c'est en libre access, tout ce que vous voulez, c'est grand, machin, donc... La petite librairie, elle ferme au bout de 2 ans. Elle tient pas, ok ?
Oui.
Jusque-là, c'est de la concurrence. Mmh. Même si on peut dire, oui, mais tu te rends compte, le grand groupe, il a des moyens qu'on n'a pas, etc. Ouais. Je suis entièrement d'accord, ouais, mais
plutôt, oui.
C'est de la concurrence. C'est aux citoyens, ou du moins aux consommateurs, à se dire, attention, si je vais que là-bas, le petit va mourir. Mais bon, autre... Mais là où c'est plus de la concurrence, c'est ce que veut faire Amazon, c'est que le jour où ce libraire pointu dans son domaine a fermé, ils ont viré tout le rayon. Ils ont laissé les 3 trucs habituels, si vous voulez, Newton, machin, et terminé. Donc c'est tout le monde qui est perdant. Toute la chaîne des grands, des photographes, des jeunes photographes, des éditeurs de photos, des amateurs. Il n'y avait plus rien. Et c'est ce que veulent les grands groupes, vous comprenez ? Ils ne le veulent pas d'ailleurs nécessairement par idéologie. Ils le veulent juste parce que s'ils ont un seul ou 2 éditeurs en vendant que ce qui marche, ils font plus de thunes.
Et oui, tout simplement.
Non, l'économie aujourd'hui, mais c'est bête comme chou. C'est bête et méchant, mais c'est bête comme chou. C'est juste le profit. Avec ça, dans le culturel, le profit, vous ne ferez jamais rien de bon. C'est clair et net.
T'aurais pas dû cliquer, t'es pris dans l'illusion du Sharingan. Je m'introduis comme un slasher dans une émission familiale. Jackie Chan, je pratique la technique de l'homme sous. Je leur donne envie de balancer tous leurs textes à la poubelle après 3 syllabes. Je suis Willy Wonka, ta place de concert cache un ticket d'or. Je veux dire si t'es bonne, ma chambre d'hôtel va t'ouvrir ses portes. J'ai dit si t'es bonne, la vérité c'est si t'es dans la moyenne. De toute façon, c'est même pas vraiment moi qui choisis, c'est Jack Daniel. J'étudie Machiavel, il rappe pareil. Je donne naissance à des milliers de moi, vas-y passe la tête avec Shin Sekai, nouveau monde, qu'il s'efface sous nos ondes. L'avenir est à nous, sort ton agenda, mais tout nos noms. Des ennemis qui veulent me faire la gueule de Quasimodo. Si j'y crois, je leur dirai j'ai des lunettes Vasimolo. J'écrirai des chansons tristes une fois que je suis parti de l'hosto. En résumé, tu peux rien faire, j'irai finir ma vie au show. Avec mes yen tree dans un bordel japonais. Rallonger l'échelle vite, j'arrive à mon apogée. Kim sait très bien qui a voulu nous saboter. Je suis pas rancunier, dit l'heure de garder la monnaie. Tu racontes pas des vérités, tu fais rimer des ragots. T'es bon qu'à réciter les mêmes clichés que les piliers du bateau. Les rappeurs approchent la quarantaine, veulent exciter les ados. J'en ai rien à foutre de leur musique, de vieux ringards des magots. Tu sens les turbulences dans la descente. Est-ce que ton dealer assure le service après-vente? Or Edson Casseur Flotteur, tu sais qui se représente. D'ailleurs, je retourne en studio, je veux que notre album sorte en septembre.
Donc peut-être que monsieur Yonero, monsieur Fibien, vous avez une réaction. Oui, je vous vois.
Moi, j'avais plusieurs interventions.
Voilà.
Il y en avait une, je suis désolé de revenir, mais c'était par rapport aux États-Unis. Déjà, peut-être qu'une des explications, c'est 240 librairies à New York, ça me semble minuscule. À Paris, il y avait combien de librairies à la même époque ?
Oui, enfin là, on parle déjà à un moment où il y a cette... mais c'est vrai que de toute façon, le rapport... je ne connais pas beaucoup le marché. Mais bon, en plus, New York n'est pas les États-Unis.
Oui.
Donc, c'est quand même... mais oui, a priori, 240 librairies à New York, c'est assez peu. C'est d'accord.
Ça, c'était avant l'arrivée du numérique, en plus. Donc,
oui. Tout à fait,
Moi, il me semble que rien que sur l'année 2014 à Paris, il y a peut-être quelque chose comme 80 ou 100 librairies qui ont fermé rien que dans le 6e arrondissement. Donc, il doit y avoir. Ça doit être.
C'est possible. Donc, après, pardon.
Non, mais c'est juste pour.
Non, après, j'ai pas les chiffres. Il y a un autre problème qui se greffe sur. Qui est spécifique à Paris, qui pourrait venir à Lyon, mais enfin, c'est le foncier, en fait. Il y a beaucoup de libraires qui n'ont pas pu tenir avec le changement de bail.
Ouais,
voilà.
ouais.
Là, ce n'est pas possible. De la même manière que moi, je ne pourrais pas tenir si j'étais sur une avenue à enseigne, c'est-à-dire sur la rue de Brest, la rue d'Edouard Herriot, parce que les loyers sont multipliés par 6. Il y a des règles, hein, tout ça, des triangles d'or, tout ça. Et donc, vous ne pouvez pas tenir entre ce que vous souhaitez faire et donc... le chiffre que vous faites, et votre loyer. Et ça, à Paris, même au fin fond du 18e, les loyers ont énormément augmenté. Et au moment de changer de bail, bim, ça tombe. Et là, le mec, il voit qu'il ne pourra pas tenir. Quoi. Ouais.
Voilà, oui, mais je disais ça comme une des, comment dire, des raisons possibles à la, au relatif bon chiffre d'affaires de la librairie numérique aux États-Unis. Quoi. C'est que peut-être qu'il n'y avait déjà pas, à la base, beaucoup de librairies comme on en trouve en France.
Oui, historiquement, c'est moins ancré.
En tout cas, en dehors de ouais, New York, San Francisco, des grandes villes culturelles, c'est sûr que c'est pas du tout... Et puis bon, il y a une énorme cavalerie beaucoup plus puissante à ce niveau-là, au niveau des médias, etc. Certes,
Alors, après, une autre réaction que j'avais, mais là, je ne l'ai pas bien formulée, donc je vais un peu réfléchir en parlant, c'est que j'ai été un peu étonné tout à l'heure quand, en coulisses, vous disiez que vous aviez des confrères qui avaient réussi, en gros, à vendre 500 Trierweiler, c'est-à-dire des libraires qui avaient peut-être une ligne éditoriale qui n'était pas celle des grands groupes, se sont mis... pour faire un peu de pognon, à vendre ça, et ça a marché. Et moi, c'est peut-être pas ça que...
Non, vous mettez pas pour faire du pognon à vendre quelque chose. Moi, ce que j'ai dit aussi en dehors du micro, c'est que si j'en avais vendu 500, moi, ça me fait une rentrée de... Ouais. Ça me fait une rentrée de trésorerie. Et donc, j'ai pas dit ça. J'ai dit...
Mais vous en avez vendu que 8 aussi.
Pardon ?
Vous en avez
je dis qu'il y a beaucoup 8. De mes confrères, de toute façon, qui sont contraints à faire essentiellement de la nouveauté, pour tout un tas de raisons qui sont liées à la chaîne du livre, à son économie. Mais de toute façon, ils vont quand même faire leur principal chiffre sur la nouveauté. Dans cette nouveauté, il y a des coûts médiatiques dont le libraire n'est pas responsable. Dire le battage autour des bouquins de Trierweiler ou d'autres bouquins, sans compter que parfois il y a des bonnes choses, hein, je veux dire, ou même d'ailleurs quand il y a un Ango qui sort en France, elle a tout. Elle a les télés, elle a toutes les radios, elle a dans la même semaine Libé, Le Monde. Vous pourrez regarder sur Le Prochain, hein, c'est pareil pour Houellebecq, vous voyez bien, donc il y a un moment, je veux dire, il y a moyen de balancer, donc les gens, à un moment, ils voient la télé, ils entendent la radio, ils le voient dans les affiches de partout, ils le voient dans leur quotidien, ils le voient dans leur mensuel, et bon, à la fin, le mec, il va le chercher, quoi. Enfin, bon, après, bref.
Faire du pognon, c'était effectivement peut-être pas la bonne formule, vous dites, ils sont contraints de faire ça. Mais ce qui est étonnant, c'est, et en prenant votre exemple, à vous, le Bal des Ardents, c'est est-ce qu'ils, finalement, ils seraient pas plus à l'aise de garder la ligne éditoriale qu'ils ont et de pas vendre ces choses-là, puisque si tout le monde se met à vendre la même chose, forcément
il me semble que j'ai répondu un petit peu tout à l'heure en disant que moi, si on me demandait pas 20 fois du Nabila, je le vendrais.
Voilà. Alors,
alors bien sûr, je pense qu'il y a quand même une idée de se dire tous les gens qui vendent des livres sont tous libraires et bon, tout à l'heure je disais pareil quoi de oui, mais alors à ce moment-là le fast-food, c'est un restaurateur, est-ce que vous allez le comparer à un super bouchon à Lyon? Ouais. Vous voyez, il y a quand même des métiers différents. Après, moi je suis libraire en centre-ville, ce que je fais ne pourrait pas être viable dans une petite ville, même à Valence, même à Saint-Étienne. En tout cas, alors imaginez dans des villes encore plus petites. Dans les villes plus petites, qu'est-ce que les gens, mes confrères vivent et bien sûr sur les nouveautés. Les gens, ils voient un truc à la télé ou alors bien sûr ils écoutent aussi France Culture, France Inter, enfin et ils viennent acheter aussi des bouquins intéressants. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un commerce. Il faut faire la part des choses entre une librairie comme la mienne. Mais je veux dire, voilà, même si je me retrouvais à Bron, je me demande si je serais viable. Oui. Oui, il faut arriver à faire le... Si on parle du marché du livre en général...
Oui, je n'ai pas compris ça.
Moi, c'était voilà, dans ce sens-là, mais... moi, j'ai pas cette clientèle, c'est clair, mais je pense qu'il y a d'autres confrères qui n'ont pas non plus... qui n'ont pas. Ils auront une autre clientèle de quartier qui sera moins... qui sera plus perméable, en tout cas, au coût médiatique.
C'est-à-dire, quand vous disiez vos confrères, j'avais compris des gens qui sont un petit peu dans votre situation, une librairie dans une grande ville, qui a une ligne éditoriale, Et je croyais que vous disiez que c'était, voilà, vous aviez des libraires qui sont dans une situation un peu similaire à la vôtre et qui pourtant se mettaient à vendre des Zemmour, des Nabila, alors que...
Ouais, enfin, encore une fois, je le répète, on vend... s'il y a une demande, je ne vois pas pourquoi on ne le vendrait pas. Le truc, c'est qu'il n'y aura pas la demande. C'est surtout ça, en fait. On ne se met pas à vendre ça. Alors, bien sûr, mais je pourrais essayer. Enfin, bon, évidemment que je ne vais pas le faire, mais parce que... Mais je vois bien qu'en même temps, j'ai pas cette demande, quoi.
Non,
et que le client, de toute façon, même le type qui achète des grandes ventes, on va dire, ou des auteurs qui bénéficient de ces opérations marketing, il a aussi un cerveau, hein. Il fait son choix, il a envie de lire ça. Ou alors il sait, oui, ça se lit. C'est comme avant les gens qui lisaient du SAS, tout ça. Vous trouviez pas que, je sais pas moi, qu'une sorte de la lie du lectorat. Vous aviez tout un tas de gens qui me disent, bah oui, c'est facile, ça m'endort, je lis 4 pages, ou bah, ça me fait le voyage. Mmh. Et effectivement, je préfère lire un De Villiers que Proust, mais sans d'ailleurs les mettre en opposition, enfin en tout cas en concurrence, vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi un produit de consommation, et y a un rapport comme ça. Il se trouve que là, bon, pour la part du Bal des Ardents, on n'est pas dans ces problématiques là voilà.
Non, mais c'est vrai que, pardon, mais même chez nous, qui fréquentons de temps en temps, il y a un imaginaire Bal des Ardents. C'est-à-dire que, effectivement, quand on se dit Nabila ou Zemmour, Bal des Ardents, on se dirait ça fait tâche, en fait.
Tout à fait.
Mais là, il y a une question chronologique. Après, je me dis, est-ce que c'est d'abord une ligne éditoriale, ou, enfin, comment dire, on a l'impression que c'est la clientèle qui l'impose presque, mais elle est bien là au début pour qu'il y ait cette clientèle.
Alors, déjà. Je vais vous faire un pire point, c'est que le problème Nabila et le problème Zemmour, c'est deux choses différentes.
Oui.
C'est-à-dire que, en tout cas, pour Zemmour, effectivement, il y a un tabage médiatique, qui en même temps, il y a mais il y a là un problème double, qui est celui d'une pensée réactionnaire moment, et de l'autre, en ce qui me concerne, la liberté d'expression. Donc, mon point, il est assez clair, c'est de dire, si Zemmour n'était pas représenté ailleurs, je pense que... Zemmour, je crois qu'on en a vendu 2, donc sur commande, le client, il ne nous demande pas si on l'aime ou on n'aime pas, il veut savoir ce que c'est, et d'ailleurs, de toute façon, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe chez ses ennemis, mais bref. Mais après, il faut, voilà. Vous voyez, c'est pas le même, en tout cas, en ce qui me concerne, Nabila. Bon, alors, non seulement on n'a jamais demandé, mais je sais même pas qu'elle ait fait un livre, mais pour Zemmour, il y a des penseurs, en ce moment, évidemment, en ce qui me concerne, moi, Francis, je suis pas d'accord avec eux, et c'est depuis longtemps. Après, le Bal des Ardents, c'est pas moi. Hein. D'ailleurs, je trouve que le dernier Welbeck est... Bon, seulement, je ne suis pas d'accord, et je trouve ça vraiment lamentable. Bon, il y a plein de gens qui ont acheté le dernier Welbeck. Chez moi, je veux dire, après, on peut en discuter avec les clients qui le souhaitent, etc. Mais c'est deux... Vous voyez, il y a deux ressorts différents, quand même.
C'est du spectacle dans les deux cas, quand même. C'est le battage médiatique, quoi, quel point commun. Et...
Oui et non. C'est là où on voit. Si vous voulez, moi, je suis totalement horrifié. C'est le mot.
Non, mais je comprends.
Et mais si vous voulez, de transformer justement. C'est ce que souhaite. Hein, enfin, en tout cas, notre idée, une des idéologies du moment, mais de transformer le rapport ou une idée en un produit. Bon, je pense, enfin, pour moi, ces mecs-là, enfin, des mecs comme Zemmour, tout ça, sont de véritables salauds parce qu'ils savent très très bien ce qu'ils font.
Oui.
Et ils jouent sur une corde pour des personnes qui vont peut-être avoir plus de mal à les creuser, à poser des problématiques, à savoir qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est juste. Enfin bon, c'est exactement le discours du FN, mais aussi de beaucoup de politiciens par ailleurs. Enfin bon, on va pas trop se lancer là-dedans. Mais. Donc, quand vous dites que c'est un produit, ok, mais les idées, c'est pas un produit. Oui, oui. Traiter un ministre de singe, etc., pour moi, c'est une nouille. Non, oui. Bon, non. enfin, on voit bien qu'on est rentré dans autre chose, quoi, d'un seul coup. Vous dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et pour moi, tout ça, c'est pas, voilà, ça relève pas uniquement que du coup médiatique. Vrai. En tout cas, c'est là pour le coup, je me dis, voilà, heureusement que je suis là en tant que libraire à essayer de proposer autre chose que, et c'est même pas du bourrage de moule, hein, ça va plus loin quand même. Hein, on détourne des idées ou des manières par des rhétoriques spécieuses pour les amener à, voilà, on banalise comme l'autre, on décomplexe, et puis d'un seul coup vous avez des propos racistes, des propos antisémites, des propos tout, enfin c'est du délire, quoi.
Voilà. Et donc on voit bien finalement que c'est ce dont on parlait au début, il y a finalement un engagement politique dans un peu dans votre choix d'être libraire, parce que quand on est libraire, on vend des idées, on vend entre autres des idées, et ça vous touche, toutes les problématiques de qu'est-ce que je vais vendre, qu'est-ce que je vais pas vendre comme idée. Et donc on va peut-être passer à l'événement de qu'il y a ce week-end quand même, la fête du bal des Ardents. Vous êtes pas là non plus pour rien, il se passe quelque chose. Peut-être que vous pouvez nous en parler, puisque vous en parlez.
Moi, je suis là parce que vous avez la gentillesse de m'inviter, monsieur Teug. Et donc effectivement, on fait une fête le week-end prochain. C'est pas un anniversaire, c'est pas une opération de communication. C'est au départ mon équipe qui a lancé cette idée. Et je me suis dit d'un seul coup, bah, c'est vrai, il y a eu tout un temps où j'avais ni les moyens ni le temps pour faire une fête. Et puis, je dis, c'est une super idée, on peut le faire. Et donc, on a lancé un peu le truc avant Noël, un peu contacté les éditeurs qu'on aime, comme La Fabrique, comme Libertalia, comme d'autres. C'est des rencontres, hein, rencontres, conférences avec des auteurs qu'on aime, ou en tout cas qui correspondent bien à ce qu'on défend.
Oui, on peut peut-être en parler. Premier invité, samedi 21 mai, 10h, William Blanc. Qui a écrit quand même un livre sur Charles Martel et la réception de l'histoire de Charles Martel.
Ces deux historiens qui revisitent les mythes historiques et qui voient comment ils sont instrumentalisés au fil parce que c'est pas nouveau.
C'est quelque chose de très politique.
Il y a toujours des creux. Oui, mais c'est un travail. De toute façon, le mot politique, j'ai toujours un peu dans le sens là. Je pense qu'un boulanger, il fait de la politique quand il fait du bon pain et qui refuse de faire du pâton congelé. Pour moi, il est aussi politique. Le mec qui fait du bon vin, c'est une démarche politique que de vendre la picrate, etc., et tous les restaurateurs qui achètent leur entrée et leur dessert chez Métro tout fait.
Quand je disais très politique, c'est parce qu'il va se situer, on est dans un combat idéologique fort de combattre finalement les récupérations de Charles Martel qui sont faites par des groupes d'extrême droite avec ce livre, clairement.
Oui, par exemple, mais c'est un travail d'historien, juste, là on en revient justement, mais en fait c'est aussi des réponses à des tendances, ambiances de refaire l'histoire, quoi, et de... C'est marrant, pour moi, ça a toujours été une sorte de tarte à la crème. D'ailleurs, Charles Martel, assez tôt, on apprend quand même qu'on ne sait même pas, on n'est même pas sûr si cette bataille a existé. Enfin bon, c'est comme les mythes. Alors bien sûr, on a besoin de mythes, tout ça. C'est toujours intéressant d'aller gratter de toute façon là où ça démange et de ramener un peu de raison ou simplement de recherche là-dessus. Ouais.
C'est marrant, j'ai l'impression qu'à là, en tête, à l'antenne, vous amoindrissez un peu la portée politique de l'événement. On a donc William Blanc en première à 10h, qui est quand même édité par Libertalia, qui est une antenne de l'édition de la CNT. En deuxième partie, on a Éric Hazan, qui est pas non plus le moins politisé de tous les auteurs. Pourquoi vous n'avez pas envie d'insister sur ce point? Comment ça se passe?
D'abord. Parce qu'il y a d'autres invités qui sont peut-être moins dans sur ce mode. Sinon, je fais attention entre le contenu et la simple provocation, en fait.
C'est-à-dire la simple provocation.
Justement, c'est-à-dire de laisser peut-être. Il y a un truc comme ça, et je trouve qu'il est assez typiquement français, c'est que il y a des cases. Et qu'il faut éviter d'enfermer, ça a été vraiment une des vocations de départ, dès le départ. C'est que justement quelqu'un qui pour lui, pour je sais pas, pour une personne, un nanar, c'est qu'un mec qui jette des bombes, etc. Eh bien, de mettre plutôt Élisée Reclus, de lui mettre ça dans les mains, plutôt que la bande à Bono, par exemple. Enfin bon, il y a un excellent bouquin fait par un excellent éditeur lyonnais sur la bande à Bono. Mais je veux dire, je fais attention. Enfin, je fais attention, oui, c'est même une question pour toucher juste que ceux qui se sentent dans une case puissent aller dans l'autre.
Ça n'aurait pas de sens pour vous de vous définir aujourd'hui comme un libraire de gauche, par exemple ?
Oh, ben certainement pas aujourd'hui. Ou est-ce que. Non, enfin. Non, oui, non, ça n'aurait pas de sens. J'assume, ouais, ok.
Parce que la gauche, c'est le Parti Socialiste, mais non, je parle.
Bah oui, mais donc il va falloir définir et on va très vite, ça va très vite être compliqué en contre-exemple. C'est un truc qui est, par exemple, j'ai, si vous voulez, cher Monsieur Tug, il y a dans le fond et depuis le début des livres sur la censure en France et sur la liberté d'expression. Eh bien, historiquement, et voilà. On en revient à William Blanc, historien. Mais historiquement, donc, on peut dire, d'une certaine manière, même si l'histoire n'est pas totalement objective, j'en conviens, mais ça a toujours été la gauche qui a bafoué la liberté d'expression, enfin, les gouvernements de gauche, pardon, plutôt que les gouvernements de droite.
Ce qui était libéraux, donc attaché.
Oui, exact. Voilà, un des exemples, par exemple. Oui.
Enfin, je n'ai pas le souvenir de savoir que le général de Gaulle était l'homme le plus attaché à la liberté d'expression.
Ok, je vous prends au mot. Je vais vous raconter une anecdote dans ses livres de Jean-Jacques Pauvert. Sans doute vous connaissez cette image de général de Gaulle avec deux béquilles en SS. C'est un dessin de Willem. Non, ça vous dit rien, c'est une image très, très connue. C'est sorti dans L'Enragé, qui était édité par Jean-Jacques Pauvert, et les éditions étaient rue de Nesle. C'est en plein mai 68. D'accord ? Et ce dessin, qui est quand même un dessin violent, pour un type qui était fait l'appel du 10 juin, se retrouver avec deux SS en béquille, Pauvert a dit « Je n'ai jamais vu un seul RG, rien ». On n'a jamais été embêté du début à la fin des événements. Je peux vous dire que, ce dessin ne sortirait pas en couverture aujourd'hui, et que, deux, parce que là, il s'agit de journaux qui étaient... je pense qu'il avait un ISBN. Enfin bref, vous auriez au moins la police qui, à ce moment-là... rien du tout.
Parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient les tabasser pendant les manifestations, peut-être aussi.
Ça, c'est autre chose. Mais au moins,
c'est une période spéciale, quand même.
En termes de liberté des. Moi, après, on parle de choses différentes. Ouais. Mais...
Après, c'était la question n'est pas de savoir si la gauche ou la droite, qui a le plus censuré, etc. Position. Ouais. Mais.
Ça peut être intéressant, quand même.
Oui, mais c'est pas là qu'on va arriver à déterminer ce genre de choses.
Ok.
Il y a une définition très partielle. J'ai l'impression que vous entendez la gauche comme l'ordre moral, moralisateur.
Non, c'était juste pour répondre.
Je trouve que objectivement, votre ligne, enfin, objectivement, ouais. Non, on peut pas être objectif, mais je veux dire, Alia, Mille et une nuits, enfin, vous avez des livres d'éditeurs de gauche, quoi.
Oui, bah, quand même. Oui,
enfin... Et plutôt, majoritairement, et c'est bien. Et c'est bien.
Oui, mais à ce moment-là, je vous renverrai à dire, pour vous, là, c'est que. Qu'une extrême où c'est justement Zemmour et des trucs qui ont plein de comptes, il y a pas de c'est du bourre-mou, quoi, alors qu'il y a des penseurs intéressants de droite. Il y a des, moi j'aime assez de façon de Léon Blois à je suis en train de chercher son nom, qui a écrit Festivus non. Ça vous dit pas Philippe ça me rend... Bref, enfin, je pense que c'est toujours intéressant d'aller voir, voilà, de lire des penseurs de droite et de voir ce qu'ils ont à dire. Après, il faut qu'on s'entende bien. Là, William Blanc, etc., sont des historiens, c'est pas des penseurs, des pseudo-penseurs à la Finkielkraut et compagnie.
Mais là, moi, je parlais plus des éditeurs. éditeurs que des auteurs, parce que même Alia publie des auteurs de droite, puis on aime tous Céline, enfin je sais pas vous, mais c'est pas la même chose. Mais par contre, j'ai l'impression que ce que vous dites, en fait, c'est des livres que j'aime bien, mais c'est pas pour autant que je vais faire du militantisme avec. Non.
Oui, en fait, je me sens pas. J'ai pas une âme militante. Voilà, je défends. Vous dites Éric Hazan, La Fabrique. Le catalogue de La Fabrique, bien sûr que, on va dire, dans l'ensemble, c'est nettement plus. C'est marqué à gauche. Mais
gauche,
bon. Après, ce qui me gêne dans ces discussions, c'est de quelle gauche on parle.
Oui,
voilà. Moi, je. Bien sûr, on va dire, oui, ça sent plus. Mais maintenant, avec ce qui se passe et ce mélange, je dois dire, voilà, je suis un.
Juste pour clore sur le sujet, vous vous définirez comme un libraire à la gauche de la gauche, ou ça n'aurait aucun sens pour vous non plus?
Vous n'avez pas envie
de pas que ça. Ouais, je dirais pas que ça a aucun sens, mais d'abord, les définitions, c'est pas trop
mon. C'est sûr,
et
puis gauche, droite, c'est voilà, tous les problèmes
voilà,
que ça pose.
Après, est-ce que les pensées libertaires, c'est la gauche de la gauche? Vous voyez, c'est. Tout de suite, ça fait. En opposition, etc. Je pense que. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des pensées sur un sujet où je puisse. Où je ne suis pas sur un sable mouvant, quoi. Après, encore une fois, le bal des ardents. Si vous me demandez ça à moi, mais vous demandez ça à Francis, pas. Bien sûr que c'est la librairie que j'ai fondée, mais après, vous avez d'autres. Vous travaillez avec des gens, vous ne les employez pas parce qu'ils pensent comme vous, nécessairement, etc. Et dans ma clientèle, je pense qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement non plus, qui n'ont pas nécessairement une âme militante ou même une prédilection pour la gauche de la gauche, etc. Ça n'empêche pas d'échanger. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait.
D'accord.
Je suis vraiment et qui m'a formé, on va dire, c'est les libres penseurs. Voilà. Reclus est dans les âmes, il n'a pas. Je pense que, bon, si, il serait défini comme anarchiste, mais enfin, il est géographe, il a écrit tellement de choses. C'est pas pour moi, c'est pas le fait de lui taxer, de lui mettre le truc à anarch, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est son écriture, c'est ce qu'il pense, et comment il va défendre, comment il va expliquer, etc. Ça m'intéresse, quoi.
D'accord, ok, très bien. On va clore sur ce point et peut-être juste finir avec le bal du bal. 21h, samedi.
Exactement.
Samedi 21 mai, qu'est-ce que
voilà.
C'est?
Bon, c'est juste l'idée de terminer sur un moment chaleureux. C'est pas un concert, c'est un bal, quoi, un petit bal musette, on va dire, pour danser et boire un coup ensemble.
Dans la rue, dans la librairie?
Non, dans la rue, oui.
D'accord.
Ah oui, un vrai musette, ouais.
Ok. Et ça revient aussi sur le fait, quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais le fait qu'aujourd'hui, la librairie se transforme en véritable lieu de rencontre et de pensée aussi.
J'espère, mais en tout cas, on organise des rencontres tout au long de l'année. Là, c'est vraiment la fête de la librairie. On a choisi nous-mêmes, on a invité les gens qu'on aimait, etc. On fait pratiquement une rencontre par semaine sur plein de domaines différents. On est très sollicité parce qu'on a une belle salle au fond. Voilà, on fait au moins une rencontre par semaine.
Ok, super
que vous puissiez.
C'est beaucoup de travail, cher monsieur.
Ça paye, quoi, c'est ça.
Voilà, donc c'est sur ces petits compliments de Eugenio Negro qu'on va terminer la session d'aujourd'hui. Merci à Francis, libraire des Ardents, d'avoir été présent à Radio Canu. Merci à Bertrand Fibien, le beau Bertrand Fibien, qui était là, malgré tout, qui a écouté pertinemment. Et bien sûr à Eugenio Negro, qui était là. Et alors, je vais vous laisser sur un petit son de rap coréen. Ah, oui. Qui s'appelle Hung. Alors, E-U-N-G, parce que je sais pas prononcer le coréen. Hung Freestyle.
Yo, gym rapper, they sounding extra, extra, extra lame. Put you in your place, call that real estate. Rap in South Korea, that's where we fucking be. Fuck! Sinky, you got me? 너랑 네 친구들 꿈을 나는 다 알아 여자 가슴 한번 만져보게 아무것도 안 하면서 부럽다고 싫어하는 fuckboy들이랑은 I don't fuck with I'm fuck it man I'm fuck it 너가 원한다면 그냥 바라봐줄 수는 있지 만나고 비 나를 왜 눈물만 더 완벽할까봐 스티비 같이
One and all still drunk as 고주망태 feeling like I'm Tony Montana 민식이 답인 영신이랑 난 flow 형 with so bad tumor throw 넘사 for 한국인 버전 Who's drilling now rich sugar 귀여 시간 알겠지 누가 왔는지 overdose rack MC killer
건데 덕분에 덕은 꽤 마치 Loading처럼 For the record, break the fucking record.
Stephen Curry 처럼 벌어 유튜브에서 원한다고 마이크 잡아 Air Jordan 처럼 I'ma let you finish but take your mic Taylor Swift 하하예처럼 I've been dreaming perfect All my shit be fuming Touring cities in the future Call that metro booming You don't see me losing 나는 이제 내가 잘한다는 거는 언급하지 않을 거야 굳이 You ran my ass 내 뒤에 태가 이쁜가 봐 뒤에서 나를 그냥 따라오게 두지 무리를 하면 속같이 남의 용동이 난 따라가지 그게 아무리 이쁘더라도 나는 다 냄새가 난다고 보니
acting phony 계속 부려오게 그건 달라 내 고집과는 지켜 니 소신 타령 말고 초심 내가 볼 때 너네 다 똑같은 반응
여길 땐 나 홀로 집을 난 마치 캐빈 같아 다 뺏어 다 같이 챙길 거야 나 양아치 새끼 같아 혼자 다 해먹어 마치 난 북한 대통령 같아 마약 수사팀은 아니어도 약한 새끼들 잡아 전부 다 swish
에이 hold up, bring that beat back real quick, man. Yo, y'all can't do this without your boy Flo, man. Yeah. 아름다운 신부 매일 긴 약간 thrown out with the bouquet. Coax 번호 내 발 심어 먹는 모습 like a facing in the buffet. You can have what you see through, nothing but bitch skinny dipping down the bouquet. Homeless I got if you forgot that I'm hot, then I'm coming at you like a toolkit. That I have too far for you to follow, you would never reach the key like I never got your old letter. So to get the cream, won't let a flow be the tone, say the shit to get it in like a go getter. Full course meal, I'ma get the money in the tummy, I'ma make room. 식사는 너네가 털 테니 기대해 오 상급 셰프도 요리 coming soon.